Merci d'être là pour donc cette petite conférence de l'Avent. Je vous demande pardon pour ma voix qui n'est pas très forte. Je suis malade, comme tout le monde, et donc je vais faire avec. Pour vous faire une petite causerie modeste sur quelques récits bibliques en lien avec l'Avent, sachant que le lien avec l'Avent n'est pas une évidence immédiate. En fait, en entendant l'évangile de dimanche dernier, où Jésus dit « Il en sera au dernier temps de même qu'au jour de Noé », ça m'a évoqué le fait que le temps de l'Avent nous projette fatalement dans une aventure, comme je l'ai dit dans mon homélie de ce dimanche, une aventure et un avenir, mais qui sont nourris, préparés, façonnés et fondés sur des espérances qui sont là depuis le départ. Le tout début du livre de la Genèse nous livre cinq récits qui nous permettent de voir le projet divin. Et donc, vivre le temps de l'Avent, c'est vivre le projet divin tel qu'il nous est raconté pour les premiers temps, qui sont l'illustration de ce qui viendra à la fin, en récapitulation, en accomplissement de ce qui a été vécu de beau et de moins beau. Et donc on va ensemble les regarder et essayer d'en tirer quelques éléments qu'on n'a peut-être jamais trop vus. Donc j'essaierai de vous montrer quelques originalités des textes. Juste pour rappel, je vous avais déjà fait une petite conférence sur l'histoire d'Israël, où j'aime bien remettre toujours cette frise pour avoir en tête le long terme du déroulé de l'histoire sainte, qui commence avec les patriarches, qui continue avec les juges, les rois, le royaume divisé, les dominations étrangères, avant d'arriver jusqu'au Christ. On est, nous, chrétiens, fondés sur une tradition millénaire, une transmission lente, une construction qui se fait petit à petit et qui donne lieu à la rédaction biblique. Là, je vous donne un tableau putatif des dates de rédaction des textes anciens, puisqu'on n'arrive pas bien à savoir à quel moment les textes ont été rédigés. Mais c'est toujours bon de se redire que l'ordre dans lequel ils nous sont donnés dans la Bible n'est pas l'ordre de rédaction. C'est pas parce que le livre de la Genèse commence la Bible qu'il est le livre le plus ancien à avoir été écrit. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Les hypothèses de rédaction les plus récentes nous disent qu'à peu près le Pentateuque, donc la Torah, donc les cinq premiers livres, auraient été écrits après le retour d'exil à Babylone, oui, en faisant suite à des traditions textuelles et orales très anciennes, composites, qui sont ensuite les savants s'écharpent sur des questions de textes sacerdotaux, il y a tout un tas de trucs très complexes, et c'est très cherché. Mais donc, en tout cas, il faut retenir qu'on ne sait pas très bien quand ces textes ont été écrits, et du coup, on ne sait pas très bien quelles sont les influences extérieures qui peuvent être décelées dans les textes, puisqu'il y a des influences qui viennent du monde perse, très nettement, des influences qui viennent du monde grec aussi, pour certains épisodes, et puis des influences babyloniennes aussi, dans certains autres textes qu'on va lire dans la Genèse. Donc on ne sait pas très bien d'où tout ça vient, mais nous, en tant que croyants, nous posons que Dieu parle par ces textes. On sait qu'on peut les critiquer en disant on peut voir des couches rédactionnelles, on peut voir des lacunes dans les manuscrits, on peut voir des choses qui peuvent s'expliquer sur le plan de l'histoire, etc. Mais nous croyons que Dieu nous parle par là, quel que soit le mode par lequel l'histoire se donne à nous. Et on retient aussi ce grand principe de la théologie des textes qui nous vient du cœur du Moyen-Âge, les quatre sens de l'écriture. C'est quelque chose de très important d'avoir en tête qu'il y a la lettre qui enseigne l'histoire, c'est ce qui nous est donné, le texte tel qu'il nous est livré et qu'on va critiquer, qu'on va travailler, qu'on va creuser, qui donne ensuite un sens allégorique que nous, chrétiens, on appelle aussi le sens théologique, ce que dit le texte sur Dieu, quid credas allegoria, ce qui fait que ce que l'on doit croire. Ensuite, une fois qu'on a cru quelque chose, ça nous invite à un agir, moralis quid agas, donc ce que tu dois faire c'est la morale, donc le bien à faire, et qui ensuite donne le sens anagogique, qu'on appelle aussi le sens spirituel, le sens unitif, qui nous permet d'être conduits à Dieu. Ces quatre sens de l'écriture, les pères de l'Église et les théologiens du Moyen-Âge les utilisent sans cesse pour interpréter les textes. Et pour chaque texte, on va dire, il y a d'abord ce premier sens, on va voir quelque chose dehors de l'histoire, et puis de la foi, de la morale et du sens spirituel. Dans la théologie juive kabbalistique, donc dans la théologie juive ésotérique, un peu secrète et sacrée, il y a un anagramme qui est fait, je n'avais pas prévu de vous en parler, donc je ne l'ai pas écrit, mais un anagramme amusant qui est le mot « paradis ». En fait, le mot « paradis », c'est un mot persan, « pardès », et il y a un anagramme « pchet, remez, drash, sod », qui sont quatre mots en hébreu qui veulent dire les quatre sens de l'écriture, et qui veulent dire exactement la même chose. Et donc, on arrive au paradis en passant par les quatre sens de l'écriture qui nous amènent au sens « sod », qui est le sens secret, le sens sacré, le sens qui nous permet d'être conduit à Dieu. Mais du coup, il ne faut pas s'arrêter en chemin. Le but, c'est ça, c'est de ne pas s'arrêter en chemin, de ne pas être bloqué parce qu'on n'a pas compris, ou parce qu'on est allé chercher trop loin, ou parce qu'on a cherché à s'imposer sur un des sens. Il faut réussir à cheminer dans le texte jusqu'à en tirer un fruit qui nous permet d'être unis à Dieu. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. On va s'appuyer ce soir sur une traduction que vous ne connaissez peut-être pas, qui est celle de André Chouraqui. André Chouraqui a fait une traduction de la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Il a traduit aussi le Coran, il a traduit aussi des textes indiens, avec un goût très déployé de la poétique des langues originelles. Salut. Et donc, notamment dans l'hébreu, il a une manière de traduire qui est très spéciale et qui fait que c'est dur à lire, mais ça nous permet de goûter quelques sens qu'on n'a pas l'habitude de voir ou d'entendre. Et je vous ai mis en bas une capture d'écran du site sur lequel on peut trouver ça gratuitement. Donc c'est une Bible qu'on a en papier, mais qu'on a aussi sur Internet. Si vous tapez sur Google « Bible Chouraqui », vous avez ce site-là où vous avez accès à tout. Alors, il appelle « Torah inspiré et écrit », c'est les trois parties de la Bible hébraïque, Torah, Neviim et Ketuvim, c'est les noms que donnent les Juifs à la Bible. Donc c'est l'Ancien Testament pour nous. Livre deutérocanonique, c'est les livres que nous, catholiques, nous croyons être de l'Ancien Testament, mais que les Juifs ne considèrent pas comme faisant partie de la Bible, parce qu'ils sont écrits en grec. Donc c'est ce qu'on appelle les livres deutérocanoniques, et que les protestants aussi ne mettent pas dans la Bible de l'Ancien Testament. Et puis un pacte neuf, c'est le mot pacte. Il utilise toujours le mot pacte pour le mot alliance ou testament. Donc c'est le Nouveau Testament. Il appelle ça un pacte neuf. Voilà, tout est toujours très original avec Chouraqui. Et je vous mets aussi, pour mémoire, j'en avais déjà parlé plusieurs fois, mais je vous le redis, le site saintebible.com. Je pense que c'est vraiment important, si vous avez le goût de faire un minimum d'études bibliques, si pour certains textes vous essayez de chercher des choses, ou quand vous faites partie de groupes spirituels ou de groupes de recherche, d'avoir accès à ce site-là, c'est très important. C'est un site gratuit, vous tapez saintebible.com, vous arrivez sur cette interface, et ensuite, tout simplement, vous rentrez ici l'abréviation du passage que vous cherchez. Luc 4.2, ben vous faites LC 4.2, et piouf, ça va vous ouvrir un verset. Et là, je vous ai donné pour l'exemple, donc j'ai mis Genèse 1.2 au hasard. Donc là, vous avez la Bible Second, la Bible Martin, la Bible Darby, donc trois Bibles protestantes open source. Donc on a le texte immédiatement, ensuite il y a la version en anglais, mais ça on s'en fiche un peu. Et la clé de ce site est dans ce bouton interlinéaire. Quand vous cliquez là-dessus, que vous soyez en Ancien Testament ou en Nouveau Testament, vous allez tomber sur ça. Et ça, c'est la clé de tout. L'interlinéaire. Retenez ça. Vous avez le texte dans la langue originale, donc là en hébreu. En dessous, vous avez mot à mot, chaque mot. Et si vous faites un clic droit, vous pouvez mettre traduire en français si vous ne lisez pas l'anglais. Donc comme ça, vous avez vraiment chaque mot. Pas de problème, on comprend tout. Et ce que personne ne sait, c'est ce sont ces chiffres-là. C'est la numérotation Strong. Il y avait un pasteur protestant au 19e siècle qui s'appelait Monsieur Strong et qui a donné pour chaque mot en hébreu et chaque mot en grec un numéro unique qui permet de retrouver toutes les occurrences de ce mot et des définitions très précises des dictionnaires bibliques. Donc quand vous cliquez, par exemple, sur le mot VARS, là, vous... ah oui, parce qu'il y a aussi la translittération, moi je ne sais pas lire l'hébreu, donc du coup je fais semblant Veares, Ayetar, Toru, Vaburu. Donc là je fais semblant de lire l'hébreu, c'est trop pratique. Et bien je clique là-dessus et là j'aurai le mot Ares, la terre, Et on verra toutes les occurrences et toutes les définitions et tout. C'est incroyable. Donc c'est vraiment très pratique. Vous pouvez aussi utiliser l'intelligence artificielle. ChatGPT marche très très bien pour les études bibliques. Si vous lui demandez pour tel verset, donne-moi les traductions alternatives, qu'est-ce qu'il y a comme subtilité dans tel mot et tout, il vous le fait très très bien. Je le teste régulièrement et ça marche très bien. Après, il y a des incidences écologiques, etc., que je ne maîtrise pas totalement, mais donc, libre à vous de voir comment vous faites. Mais en tout cas, ce site-là, je ne crois pas qu'il tue de bébé phoque, donc vous pouvez essayer. Donc ça, c'est saintebible.com. Et voilà, moi, je l'ai beaucoup utilisé, ces sites-là, depuis longtemps et tout, donc je vous livre un peu mon savoir tient beaucoup dans Internet, quoi. Donc la création, tout est don. Donc on va voir cinq récits, les cinq grands récits de l'Ancien Testament, de la Genèse. On peut juste, avant de plonger dans les récits, il y a quand même une question, donc je vous ai montré les quatre sens de l'écriture, il faut aussi s'entendre sur la qualité de ces récits, quel est le statut des textes. Est-ce que ces textes ont pour prétention de nous dire l'histoire? Est-ce que ce sont des textes qui nous disent exactement une histoire? Ou bien ce sont des textes cachés avec un sens plus secret? Moi je suis plutôt partisan de ça, c'est-à-dire des textes du genre mythologique. Alors pour certains ça va faire pousser les hauts cris, mais dire que quelque chose est un mythe, ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu, ça ne veut pas dire que c'est un mensonge, ça ne veut pas dire que c'est une invention. Mutos en grec, ça veut dire, le verbe muein veut dire ce qui est tu, c'est ce qui donne le muet, mutisme en français, et donc c'est quelque chose dont le sens est inaccessible autrement que par une parole poétique. Donc on ne sait pas, on ne peut pas comprendre intellectuellement le tout, donc c'est une histoire qui nous est donnée pour avoir une approximation du sens. Et donc, le but n'est pas de dire « c'est exactement ainsi que ça s'est fait », mais c'est de dire « Dieu veut nous dire cela sur ce mystère-là ». Vous voyez ? Donc, c'est ça qui nous est livré dans les textes. Alors, la création nous est présentée en ces termes mystérieux. Alors voilà, là, vous voyez tout de suite comment notre ami Chouraki, André Chouraki, traduit la Bible. « En tête, Elohim créait les ciels et la terre ». Donc déjà, on voit des choses amusantes. Elohim, qui veut dire le Seigneur, qui est mis au pluriel, parce que c'est le pluriel de majesté dans l'hébreu, et ce sera toujours un pluriel qui est employé pour parler de Dieu. Ce qui est troublant pour nous, parce qu'on se dit, mais il y a Dieu est unique, et les Juifs sont monothéistes, c'est-à-dire ils emploient toujours une idée du pluriel, qui du coup donne une ambiguïté sur le nombre de Dieu, mais qui dit aussi sa majesté. Et donc quand nous, Français, on parle de monothéisme, on a tendance à plaquer sur le raisonnement juif quelque chose de très artificiel et de très moderne. La question de la pluralité de Dieu, elle n'est pas que dans l'idée qu'il y a plusieurs dieux, mais c'est Dieu est tellement grand et tellement insaisissable qu'il peut même être dit plusieurs. Et c'est ce qui ouvre d'ailleurs même à notre conception de la Trinité avec ces trois personnes. Il y a quelque chose du pluriel en Dieu, Dieu n'est pas seul. Il y a cette immensité qui est là. Et la terre était tohu et bohu. C'est surtout sur ce mot-là que je voudrais m'attarder sur ce récit de la création qu'on connaît bien. Le mot tohu bohu est un apax, donc c'est-à-dire un mot unique qu'on ne voit que là dans l'Ancien Testament, et qui dit quelque chose du chaos primordial. Le chaos primordial, qu'est-ce qui se passe avec la technique? On est toujours trahi par la technique. Le chaos primordial, c'est marrant de parler de chaos et à ce moment-là l'image s'éteint évidemment. J'aurais pas dû parler de chaos. Ça c'est pénible. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on ait un nouveau projecteur. Emmanuel, je crois qu'il va falloir agir. Ça fait déjà deux fois qu'il me fait le coup depuis tout à l'heure. Donc. Ouais, je recherche la source. Donc le tohu bohu, est-ce qu'on va l'avoir? Aïe, aïe, aïe. Alors si je débranche, je suis désolé. C'est comme ça. Ben oui, ça s'est coupé déjà tout à l'heure avant que je commence. Mais voilà, là il revient. Bon, c'est revenu. Alors du coup, le chaos primordial, voilà. Donc là, je vous fais... Ah, c'est parce que Denis est arrivé, c'est ça qui a coupé le... je vous fais deux mots que vous connaissez peut-être pas. Théomachie et Chaoskampf. Donc là, c'est pas mal quand même le mardi soir, comme ça, à 21h, là. On va dans du solide. Pour vous faire découvrir un truc intéressant. Dans les récits de création alentour d'Israël, il y a deux voies qui permettent d'expliquer l'advenue de l'être. Soit une théomachie, donc un combat entre les dieux, soit un Chaoskampf, un combat contre le chaos. L'idée d'un chaos primordial ou l'idée d'une préexistence des dieux qui se combattent l'un l'autre. Ça, ça peut m'énerver par contre si ça se coupe toutes les 5 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire, Emmanuel? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toi l'homme de la situation.
Là, c'est pour quoi c'est une page à
ouais, ça, c'est juste une question qui est sur mon ordi. Le vidéo proche, il n'y a pas de raison de se mettre en recherche. Je
trouve que c'est
vous allez essayer de lire très très vite la prochaine slide, comme ça, si ça coupe, vous aurez lu ce qu'il y a dessus. C'est pénible parce que j'ai vraiment besoin de montrer les deux de la texte, sinon je ne m'en sors pas. Normalement, ça devrait remarcher aussitôt. Non, ne t'inquiète pas, ne pars pas. En tout cas, bon, j'essaie de vous expliquer la chose. Dans les théologies, dans ce qu'on appelle une cosmogonie, voilà, dans les cosmogonies, c'est-à-dire les récits primordiaux, la norme, la logique, c'est de penser une préexistence chaotique. C'est-à-dire de considérer que la matière est préalable à l'être et que...
Ah, et peut-être que si on en chante, si tu chantes le zombie, c'est juste de voir s'il n'y a pas un mauvais combat. Parce que sinon, tu chantes le
L'idée, c'est que dans les cosmogonies d'alentour, donc vous voyez, les cosmogonies de Babylone, de la Syrie, d'Ougarit, des Hittites et l'Égypte, on a une pensée d'un chaos primordial. Il y a la matière qui est là, en chaos, donc en désordre, et qui a besoin d'être informée par l'action divine. Donc là, je vous ai mis comment fonctionne le combat contre le chaos. Ne vous attardez absolument pas aux informations qui sont sur le tableau, c'est tout à fait secondaire, mais c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du combat contre un chaos. Et l'autre manière de penser, c'est la théomachie, donc c'est comme la tauromachie, sauf que c'est pas un taureau contre qui on se bat, mais un dieu. Et donc là, c'est l'idée de certaines cosmogonies qui vont considérer qu'il y a deux dieux qui combattent, qui se tuent l'un l'autre, et c'est de ce combat que naît la matière. Okay ? Donc soit le chaos préexiste, et le dieu va venir extirper du chaos un ordre, soit ce sont des dieux qui se battent et de leur combat vient un précipité qui est la matière. Quoi qu'il arrive, du coup, c'est quelque chose de négatif, quelque chose de l'ordre du précipité, donc comme en chimie, une espèce de compression qui se fait par péjoration de quelque chose de spirituel qui préexiste. Et donc la nature est mauvaise, puisqu'elle est l'objet d'un combat, l'objet de quelque chose de triste, de tragique, qui du coup est voué à la disparition. Eh bien, en Israël, ça n'est pas ça. En Israël, le récit de la création et le tohu va-bohu ne dit pas quelque chose d'un chaos préexistant, mais dit quelque chose de l'informel, informe et vague. Tohu, c'est informe, va, bohu. Bohu, c'est vague. On a souvent dans nos traductions, je crois, liturgiques, hein, tout n'était qu'informe et vague, non, c'est ça, non ? C'est une traduction liturgique qu'on entend à la vigile pascale. Eh bien, donc, Dieu est celui qui fait advenir l'être absolument. Comme vague et qui va l'informer au fur et à mesure. Donc on a dans notre foi chrétienne, la foi en la création ex nihilo, hein, à partir de rien, Dieu ne prend pas une matière préexistante, il est absolument souverain et il est unique dans le processus créatif, il n'y a pas un autre Dieu qui intervient, qui vient le challenger ou qui vient se battre avec lui, etc. Dieu est seul créateur et il fait une création absolument bonne. Et ça, c'est totalement original. Et ça, ça n'arrive pas dans les autres récits de création, dans les autres cosmogonies. C'est qu'en Israël qu'on va dire tout était bon, tout était beau, tout était bien. Dieu a créé les choses de manière harmonieuse et tranquille. Et ça, c'est le projet de Dieu. Et puis ensuite, Dieu, ayant fait l'œuvre, il chôme. Elohim achève au jour septième son ouvrage qu'il avait fait, il chôme. C'est le verbe Shabbat. Voilà, il fait son chômage. Il Shabbat. Et le jour septième de tout son ouvrage qu'il avait fait. Il bénit ce jour, il le consacre, et en lui, il chôme de tout son ouvrage qu'Elohim crée pour faire. Voilà les enfantements, le mot qui est employé, ça n'est pas qu'une création comme un fabricant ferait, mais c'est un enfantement, c'est une génération. Voilà les enfantements des ciels et de la terre, donc des cieux, on devrait dire, hein, ça c'est du shuraki tout craché, des ciels et de la terre en leur création, au jour de faire, le Seigneur Adonai Elohim, terre et ciel. Là, vous voyez que IHVH, vous savez qu'en français, dans la Bible de Jérusalem, ils ont écrit en toutes lettres Yahvé, mais c'est un nom qui est interdit. Par respect pour les Juifs, en 2005, le pape Benoît XVI a interdit aux catholiques de prononcer ce mot. Donc on n'a pas le droit, sauf pour un sous-titre. C'est pas non plus Voldemort, hein, on ne va pas mourir si on dit son nom. Mais du coup, voilà, par respect pour Dieu, on ne prononce jamais le nom divin. Et donc quand on voit écrit Yahvé, on dit le Seigneur. Donc de soi-même, on prend cette habitude-là. Je vous avais déjà raconté qu'au séminaire, on avait tellement l'habitude de dire ça que quand quelqu'un disait le verbe « avoir » à l'imparfait pour dire « il y avait quelque chose », tout le monde disait « le Seigneur ». Et donc du coup, c'est vraiment un réflexe qu'on avait. Ça déconne pas là-dessus. Donc voilà, le Seigneur Dieu fait le ciel. Et du coup, je reviens sur un concept dont on a parlé plusieurs fois avec certains, le concept de Tzimtzum. C'est un concept kabbalistique qui dit que le Shabbat divin est une rétractation. C'est Dieu qui, pour laisser de la place à la création, et pour ne pas être un Dieu omnipotent qui tiendrait tout, il s'échappe et il laisse de la place pour que la création prenne sa propre place. Et Dieu a comme une espèce de pudeur à l'égard du réel, en laissant une initiative à l'être et à la vie, pour que la vie puisse se répandre. Et donc Dieu choisit de partir sur la pointe des pieds pour dire que pour laisser à la création son chemin. Et donc c'est ce que, dans la théologie chrétienne, notamment au Moyen-Âge, on va appeler le « in status vie », et ce qui va donner de la place pour les théories de l'évolution. Donc au Moyen-Âge, notamment saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, et je vais vous en montrer un extrait pour vous illustrer comment ça fonctionne, saint Thomas d'Aquin parle de cette idée de in status vie, donc en état de chemin. La création n'est pas figée dans un état d'être que Dieu maîtrise, mais il lui laisse une initiative propre à elle. Et c'est dans cette manière d'être qu'on pourra expliquer une des manières d'être du mal. On y reviendra avec la chute d'Adam et Ève. Et je vous montre un extrait, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de saint Thomas d'Aquin quand même un petit peu, non, hein, 1225-1274, saint Thomas d'Aquin, le grand savant du Moyen-Âge, qui écrit après la redécouverte des travaux d'Aristote, et qui va codifier dans sa grande somme théologique, en quatre volumes, trois volumes, mais qui sont quatre livres, toutes les questions liées à la foi. Et à chaque question, il répond comme ça. Là, je vous ai mis une question pour vous montrer, parce que vous avez probablement jamais vu un article de la somme. Donc vous avez une grande question subdivisée en plein d'articles. Là, je vous ai mis un article. Le repos de Dieu. Il fonctionne toujours comme ça. D'abord, des objections. Le repos de Dieu. Il semble que Dieu ne s'est pas reposé de toute son œuvre le septième jour, car Jésus dit en saint Jean, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à maintenant, je suis à l'œuvre moi aussi. » Deuxième objection, le repos s'oppose au mouvement ou au travail, machin. Bon. Troisième, si on argue que Dieu s'est reposé le septième jour, le repos s'oppose à l'activité. Or, cette expression « Dieu créa et fit ceci et cela » ne signifie que Dieu a fait créer, machin. Bon. Donc ça, c'est d'abord les objections. Il y en a en général trois, parfois jusqu'à cinq ou six. Ensuite, un argument d'autorité, en sens contraire, en latin, sed contra. Par contre, la Genèse dit que Dieu se reposa au septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Donc là, il envoie une espèce d'argument d'autorité qui termine le débat. Il donne ensuite une réponse, respondeo. Donc là, il donne toute une réponse qui peut être très longue ou très courte. Le repos s'oppose en propre au mouvement et par suite au travail engendré par le mouvement. Or, bien que le mouvement au sens propre se dise des corps, cependant le mot mouvement peut être transposé de deux manières pour signifier les réalités spirituelles. C'est quand même prise de tête de dingue, hein, mais quand on le lit à tête reposée et qu'on fait un peu d'effort, on a tout à fait une réponse satisfaisante. Au passage, vous voyez là, il cite Denis. C'est pas Denis Montaud qu'il cite. Il cite Denis l'Aréopagite. Or, saint Thomas d'Aquin, rendez-vous compte, on est au XIIIe siècle. Il écrit 5 livres en même temps. Il était malade d'hypermnésie, saint Thomas d'Aquin. Il avait des gros problèmes psychologiques. Et il écrivait. Donc, il avait 5 secrétaires qui écrivaient. Donc, il dicte à un, toi, tu écris ça, toi, tu écris ça, toi, tu écris ça. Et il cite comme ça à la volée. Il dit, Denis dit ça. La Bible dit que, bam, bam, bam. À l'époque, rendez-vous compte, la Bible n'était pas subdivisée en chapitres. Et il n'y avait pas de versets, a fortiori. C'est arrivé au XVIe siècle, les chapitres et les versets, par Étienne Tampier. Donc avant ça, la Bible, c'était juste un grand texte. Et donc le gars, il vous cite ça comme ça à la volée, et il cite Denis l'Aréopagite, mais il cite Aristote, il cite Averroès, il cite n'importe qui. Et donc pendant des siècles, on s'est dit, ouais, Thomas, il fait un peu semblant de citer et tout. Au XIXe siècle, le chanoine Migne s'est fadé de prendre toute la somme et de chercher pour chaque citation, est-ce qu'on a bien le texte ? Il n'y a pas une faute. À chaque fois, quand saint Thomas dit « Denis dit que », là, dans cette édition du CERF, on a à chaque fois un petit « A » qui se réfère en bas de la page, et il y a la vraie citation. Et donc, à chaque question, il y a une dizaine de citations, etc. C'est extraordinaire, la puissance de saint Thomas d'Aquin. C'est vraiment bouleversant de science, et c'est pour ça qu'on dit que c'est le grand compilateur du Moyen-Âge. Après lui, on s'est calmé, on a arrêté de faire la théologie pendant 300 ans. Et il a fallu s'y remettre quand les protestants sont arrivés. Mais c'est vraiment bouleversant de puissance. Et donc, une fois qu'il a fait son respondeo, sa réponse, il donne les solutions à chacune des objections préalables. Et il donne une réponse à chaque fois. Parfois, c'est un peu tiré par les cheveux ou je ne sais pas quoi. Enfin, globalement, c'est quand même très, très puissant. Et ça permet de creuser l'ensemble de la théologie. Donc ça, c'était juste un prétexte pour vous montrer une page de saint Thomas d'Aquin, parce que ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de le montrer. Mais donc, on retient de la question de la création, puisqu'on est dans le temps de l'Avent, cette bonté originelle, absolument originale, dans le récit biblique, et cette volonté qu'a Dieu de faire une harmonie première qu'il livre à une destinée qui se fera par elle-même. Dieu ne veut pas nous diriger à la manière d'un marionnettiste, il laisse la création aller son chemin. Ensuite, on va dans le récit d'Adam et Ève, qu'on connaît bien, avec la beauté de tout ce qui va se passer pour cet homme qui s'en vient. Le Seigneur forme le glébeux, donc ça c'est juste pour vous montrer que Adam, en hébreu, ça vient du mot Adama, la glèbe, la terre, qui veut dire aussi rouge en hébreu. Donc c'est le rouge qui est là, d'où le nom aussi Édom, qui a la même racine. Poussière de la glèbe, Adama, voilà. Il insuffle en ses narines haleine de vie, c'est le glébeux, un être vivant, Chai. Le Seigneur plante un jardin, et il met là le glébeux qu'il avait formé, il fait germer de la terre, machin, ok. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais faire une aide contre lui. Il forme de la même terre tout animal, tout volatile, etc. Et là, je vous ai mis ce texte juste pour insister sur cette unité du vivant. Tous les êtres vivants sont pris de la même terre. Ils forment de la glèbe. Ce sont aussi des glébeux. Ce sont aussi des adamiques, les animaux. Et parce qu'ils sont aussi pris de la terre et il leur donne un être vivant à chacun. Il leur souffle une haleine de vie, Dieu. Il fait d'eux des animaux doués d'une âme. Même si ce n'est pas le même type d'âme que la nôtre, les animaux ont une âme, un esprit vivant en eux. Et c'est un signe de cette cohérence du vivant et de cette cohérence du projet de la nature que Dieu bâtit pour nous. Et ensuite, il fait tomber une torpeur sur le glébeux. Il sommeille, il prend une de ses côtes, ferme la chair dessous, vous connaissez cette scène, qui répond, vous savez, les trois grands sommeils dans toute la Bible, il y a trois moments où il y a un sommeil mystérieux où l'homme ne peut pas tenir bon et où Dieu agit à sa place. c'est celui-là. La deuxième scène, ce sera avec Abraham, au moment où Dieu fait alliance avec Abraham. C'est la scène où Abraham découpe des animaux en deux, il doit marcher dans les animaux pour faire alliance, et Abraham tombe dans le sommeil, et donc Dieu seul fait alliance, Dieu seul passe entre les animaux. Et la troisième scène, ce sera Jésus au jardin des Oliviers, avec les apôtres qui sont dans un sommeil mystérieux, alors qu'il va faire l'œuvre de salut. Dieu fait tomber un sommeil pour dire que c'est lui qui est en charge. Et donc quand il fait la merveille de prendre l'une du côté de l'autre, eh bien, il est en train d'opérer une œuvre majeure de composition, et c'est de là qu'il y a ce fameux jeu de mots. Elle sera appelée Isha, celle qui est prise de Ish. Donc le nom de la femme est une prolongation du nom de l'homme. Il ne faut pas du tout y voir une question de prééminence du masculin sur le féminin, c'est pas du tout le sujet biblique, on s'en fiche complètement. Il n'y a pas du tout de pensée de l'ordre de la concurrence, mais c'est pour dire qu'on est dans le même cri, le même nom, cette harmonie absolue qui est là. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme, ils ne sont qu'une seule chair. Et de là vient ce fameux verset. Je vous en avais déjà parlé pour ceux qui m'avaient entendu parler du diable, mais pour moi c'est ce verset qui est très important. Genèse 2:25. Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Genèse 3:1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Et donc là, il y a un jeu de mots en hébreu entre le mot nu et le mot rusé, puisque c'est le même mot, arom. C'est le mot qui veut dire subtil. La racine, c'est aram, ça veut dire subtil. C'est l'idée de cette nudité au sens de l'œil du serpent dont on dit qu'il n'a pas de paupières, et donc il est dans une nudité du regard, il est subtil et fin dans son discernement, comme Adam et Ève se montrent l'un à l'autre en toute subtilité, en toute innocence, et donc lui il va venir s'immiscer dans cette subtilité-là, dans cette innocence. Et de là je vous mets un extrait de Louis Ginsberg, Les légendes des Juifs, c'est une compilation des targoumim, c'est-à-dire les commentaires rabbiniques, qui sont tardifs, hein, les targoums, c'est écrit au cours de l'ère chrétienne, hein, à partir du 2e, 3e siècle, et donc ce sont des légendes, mais qui sont intéressantes parce qu'elles disent une exégèse narrative, elles expliquent l'histoire. Le serpent commence ça, donc ça c'est pas dans la Bible, mais ça parle dans le creux de la Bible, vous voyez, ça s'ajoute entre deux versets, si vous voulez. Le serpent commence ça, est-il vrai que Dieu dit « tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin » Ève répond, nous sommes autorisés à manger le fruit de tout arbre, à l'exception de celui qui se trouve au milieu du jardin, que nous ne devons même pas toucher de peur que nous soyons frappés par la mort. Elle parla ainsi, car, et ça c'est dans la Bible, hein, quand elle répond au serpent, on n'a pas le droit d'y toucher. Elle parla ainsi, car dans son zèle, pour la préserver de toute transgression de l'ordre divin, Adam interdit à Ève de toucher l'arbre, bien que Dieu ait mentionné seulement le fait de manger son fruit. Ainsi se vérifie le proverbe, mieux vaut un mur de 10 coudées de haut qui tient debout qu'un mur de 100 coudées de haut qui ne tient pas debout. C'est très juif, j'adore. C'est l'exagération d'Adam qui fournit au serpent la possibilité de convaincre Ève de goûter au fruit défendu. Le serpent poussa Ève contre l'arbre et dit, tu vois bien que toucher l'arbre ne cause pas ta mort, cela ne te nuira pas plus d'en manger le fruit. Ce n'est rien d'autre que la malveillance qui a incité cette interdiction de l'arbre. Là, il y a une leçon formidable, cette amplification de l'interdit divin que fait Ève naïvement, puisque dans la Bible, il ne nous est pas dit que c'est Adam qui lui a dit quoi que ce soit, c'est les rabbins qui disent que c'est Adam, mais peu importe, cette amplification de l'interdit divin est l'occasion de la chute. Quand Dieu interdit quelque chose, il n'interdit pas plus. Hein ? Vous savez, il y a une espèce de blague qui dit, je ne vais jamais la retrouver exactement, mais on dit en Angleterre, tout est permis sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. Je ne sais pas comment c'est, il y a tout un truc comme ça, et c'est très vrai. Et donc, le côté allemand de dire tout est évident, et il y a un pays après, je ne sais plus lequel, où tout est interdit, même ce qui est permis. Mais ça doit être en Allemagne. Et donc, du coup, je trouve ça tout à fait juste, une fois de plus, pour recoller, j'allais dire racoler au temps de l'avant, c'est cette question d'être dans l'attente de Dieu sans exagérer les demandes divines. Dieu ne veut pas faire de nous des soumis écrasés, il veut faire de nous des espérants tranquilles. Et il dit à Adam et Ève, je vous donnerai ce fruit. Attendez, je vais vous le donner, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Et eux, ils se laissent avoir par la voix du serpent qui leur dit « Prenez, sinon vous risquez de ne pas avoir ». Et donc la patience spirituelle, c'est une des très grandes vertus qui nous permet de nous laisser faire par l'avenir où Dieu se déploiera parce qu'il l'a promis. Et du coup, les conséquences du péché d'Adam et Ève, on les connaît, hein, et j'insiste juste un tout petit peu. Là, je me suis pris la tête sur ce verset 3.15, parce qu'il y a ce mot. « Je placerai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. » Et ensuite, il y a une ambiguïté. « Il te visera la tête et toi, tu lui viseras le talon. » En fait, on ne sait pas qui va écraser la tête du serpent. On a tôt dit dans l'Église que c'était un féminin qui disait que c'était du coup la Vierge Marie qui écrasait, etc. En fait, c'est beaucoup plus ambigu que ça. Il y a une ambiguïté de genre et de nombre. Donc, c'est la descendance de Ève et on ne sait pas qui écrasera la tête du dragon. Nous, on croit que c'est le Christ. On croit que c'est que. Mais quand on dit cette ambiguïté, ça dit aussi l'Église. Ça dit aussi nous tous. Il y a ce pouvoir qui est donné et qui fait que nous n'avons rien à craindre. C'est ça l'idée, hein. Il n'y a rien à craindre puisque quand bien même le mauvais essaie de nous attraper le talon, le diable, eh bien nous avons ce pouvoir de lui écraser la tête. Et puis il y a ce verbe chouf, visera, et ça c'est un apax. Donc un apax c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans le texte, et donc c'est très compliqué à traduire, puisqu'il n'y a pas d'autres exemples, donc on a ce verbe, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc il y a un consensus sur le fait de viser. Donc, voilà. Et à la femme, Dieu dit « Je multiplierai la peine de ta grossesse, dans la peine Hatsav, tu enfanteras tes fils, et à ton homme, ta passion, tes choukar, lui, il te gouvernera machal. » C'est important ces deux verbes parce que ça va revenir après dans le texte. Mais c'est aussi une formule étonnante. « À ton homme, ta passion. » Les rabbins ont beaucoup commenté cette chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une espèce d'attachement pulsionnel. Alors là, il y a un truc un peu machiste quand même dans l'affaire, qui dit que c'est la femme qui est massivement attachée à l'homme et qui est massivement attirée par l'homme. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit que dans ce sens-là, les choses qui se passent dans le cœur des humains. Je ne crois pas que ce soit que dans un seul sens, mais c'est un peu présenté comme ça, comme si elle avait une espèce de... Donc là, il y a un côté un peu soupçonneux sur la pulsion sexuelle féminine, qui est un peu abusif, je trouve. Et au glébeu, donc à Adam, il dit « Tu as entendu la voix de ta femme et tu as mangé de l'arbre dont je t'ai ordonné. Oni est la glèbe à cause de toi. » Et ce mot « oni », tiens, je pense que maintenant, il reviendra plus tard. « Dans la peine, tu en mangeras tous les jours de ta vie. Elle fera germer pour toi Cartam et Chardon. Mange l'herbe du champ, etc. » Au passage, vous voyez, quand vous lisez une traduction comme celle de Chouraki, vu qu'il emploie toujours le même mot pour le même mot, ça permet de voir les résonances entre les textes qu'en français, on ne voit pas bien quand on lit une traduction ordinaire qui essaye de varier les mots pour que ce soit littérairement plus satisfaisant. Vous voyez. Donc là, ça permet d'être précis. Donc ce « oni », il reviendra juste après dans l'histoire de Noé. Et tu es poussière et la poussière tu retournes. Retenons qu'il y a cette malédiction divine et comme toujours, il y a une bénédiction. Il y a un antidote. Dieu ne dit jamais c'est foutu. Il dit voilà, il y a une sortie. Et Dieu nous laisse toujours une voie possible pour retrouver le bien. Et donc là, il y a cette promesse que la tête du mauvais pourra être écrasée, il sera vaincu. C'est ce qu'on appelle le proto-évangile, le proto-évangile. C'est un premier évangile qui est donné là. Dès le tout début de la Genèse, nous savons que le méchant sera perdu, le diable sera vaincu. Alors ça nous amène quand même à l'épisode très douloureux, juste après déjà cette malédiction. Il y a un deuxième passage très, très terrible avec nos amis Caïn et Abel. Donc Adam connut Ève, sa femme. Yadar, en hébreu, ça veut dire connaître. En fait, Chouraki avait employé un autre verbe, mais que je trouve vraiment très inélégant, puisqu'il emploie le mot « pénétrer ». Et je trouve ça quand même vraiment pas chic. Mais c'est la même idée, c'est que avoir l'esprit pénétrant, on pénètre une idée aussi. Donc vous voyez, il y a toute cette ambiguïté-là. C'est un euphémisme biblique pour parler de l'union sexuelle, mais qui est aussi le même verbe qu'on emploie pour dire « connaître une notion ». D'où le fait, j'en parle en manière de digression, que dans l'épisode de Sodome et Gomorre, il y a la destruction de Sodome qui est liée au fait que les habitants de Sodome ont demandé à connaître les hommes qui étaient venus habiter... vous n'avez pas le sous-texte. Abraham, on est avec Abraham, hein, l'épisode de Sodome et Gomorre. Abraham, il attend la naissance de son fils. Il y a trois anges qui viennent le voir. et qui viennent lui parler, vous connaissez hein, la scène, et deux des anges disent « Nous, nous allons voir ton neveu Lot, qui habite à Sodome. » Ils vont à Sodome, et là, Lot leur dit « Soyez les bienvenus », il les invite, et les sodomites disent « Donne-nous à connaître, Yadar, ces étrangers qui sont venus chez toi. » D'où le fait que la ville va être détruite. On en a tiré de la morale en disant « C'est une question d'homosexualité », alors que le sujet n'est pas que là. Il est là, d'une part, mais le sujet, c'est surtout de violer l'étranger. Les gars, ils viennent, ils se font violer, c'est quand même moyennement sympa comme accueil. Et deuxièmement, et surtout pour moi, ils ont voulu connaître Dieu. C'est les anges qui sont là, c'est Dieu lui-même. Et ils ont voulu, union sexuelle peut-être, mais connaître, maîtriser, posséder la substance divine. Et donc, ils sont punis. Et ça, c'est très important dans la théologie, de comprendre que cette notion de connaissance, elle est une interpénétration qui fait qu'on se donne totalement l'un à l'autre dans l'union sexuelle, et donc aussi dans la connaissance. Et donc Dieu ne peut pas être connu de cette manière-là, Dieu n'est pas celui qu'on peut posséder. Donc voilà. En attendant, Adam connut sa femme, enceinte, elle enfante Caïn. Elle dit « J'ai eu, Caniti, un homme avec le Seigneur ». Donc Caïn, le nom Caïn, vient du verbe « Caniti ». C'est pour ça qu'il s'appelle Caïn. « Obtenir ». En fait, ça veut dire « obtenir, posséder », au sens de la conquête. C'est ça l'idée. C'est bah, elle est.
Faut imaginer quand même. Dans l'histoire de l'humanité, elle est la première femme et la première femme qui enfante un homme. L'autre, enfin, c'est quand même génial. Vous, mesdames, qui avez eu des garçons, je pense que ça doit être un truc quand même assez dingue de donner déjà donner naissance à une fille, c'est déjà bien quoi. Mais c'est pour dire. Mais non, c'est pour dire que la fille, c'est la même que vous. Vous donnez naissance au même genre que vous, mais donner naissance à l'autre genre, c'est quand même étonnant de posséder en vous la possibilité. Voilà, je trouve ça incroyable. Cette surprise, elle doit être totale. Donc elle dit, j'ai obtenu ça, quoi. J'ai obtenu l'autre. C'est la totale altérité. Et donc c'est une surprise géniale. Et elle ajoute, à enfanter son frère, Hébel. Hébel, ça nous rappelle Kohelet 1-2, Kohelet Ecclésiaste, Havel, Havalim, Hakol, Hevel. Vous avez vu comme je lis l'hébreu, je suis trop fort. Et vous savez comment c'est dit en français ? Vanité des vanités, tout est vanité. Alors elle a son premier fils, elle l'appelle possession, trop fort et tout, l'autre, vanité. Abel, il s'appelle vanité, ça veut dire la buée, Evel. Donc il est la légèreté, en fait elle s'en fout un peu quoi. Elle a vécu son grand choc et puis après, bon bah oui, bah, d'accord, un deuxième, bah, on peut en faire d'autres maintenant, le choc est passé. Et c'est très intéressant parce que du coup, le premier fils, il est chargé d'une espèce de puissance, de fierté, de réussite, qui va faire qu'il est là en mode « c'est moi qui ai fait de ma mère une mère. C'est moi qui l'ai engendré à la maternité. » Et donc il est tout nanti de sa fierté, et il se balade dans le monde. Donc vous voyez ce qui va venir après, on connaît l'histoire. Et donc je trouve ça très intéressant de voir toujours le sens des noms, parce que ça explique beaucoup la destinée des personnes avec beaucoup de richesse. Et c'est au terme des jours qu'un fait venir des fruits de la glèbe, en offrande au Seigneur, Hébel a fait venir lui aussi des aînés de ses ovins et de leur graisse. Le Seigneur considère Abel et son offrande. Et on sait la suite. Caïn et son offrande, il ne les considère pas. Et donc le gars qui est habitué à être le meilleur partout, tout d'un coup Dieu lui dit, toi, tu vas attendre un peu. Et là, et Dieu lui dit, pourquoi cela te brûle-t-il? Pourquoi tes faces sont-elles tombées? Pourquoi ton visage est défait? Pourquoi tu as une tête de 100 pieds de long? C'est ça qu'il dit littéralement. N'est-ce pas que tu t'améliores à porter, donc porter, en hébreu, il y a l'idée d'un holocauste, c'est quelque chose qu'on élève, une élévation. Donc porter, c'est cette idée-là. Donc, améliore-toi à prier, en fait. Il faut que tu t'améliores, et si tu ne t'améliores pas, à l'ouverture, la faute est tapie. En français, on dit le péché est à ta porte. Mais en fait, c'est plus le pétard, c'est rien à voir avec ce qu'on allume avec une mèche, hein. Le pétard, en hébreu, c'est entre deux. Il y a quelque chose dans l'entre-deux, mon gars. Là, il y a quelque chose dans l'impureté de ta vie et de ton indécision, puisque tu es un homme qui se veut tout-puissant, quelque chose est là qui est tapis. À toi, sa passion, tes choucards, toi, gouverne-la, machal. C'était cette phrase-là que Dieu avait employée pour Ève, en disant, ta passion est être gouverné par l'homme. Et donc, Caïn a le même rapport à la pulsionnalité de son désir et de son orgueil que la femme à son homme et l'homme à la femme. Il y a une espèce de familiarité et de désir
une espèce de, ouais, de pulsion qui est de l'ordre du sexuel de Caïn pour sa passion, pour son désir d'être puissant. C'est vraiment l'explication psychanalytique de la toute-puissance. Et donc, et Dieu lui dit, voilà l'immense tentation, voilà le danger. Et c'est vrai pour tous. Quand on est établi dans sa fierté, on risque de tomber. Ouais, Sophie ?
J'ai une petite question tout à l'heure. Ève, elle dit qu'elle a fait un homme avec
le Seigneur.
Avec le Seigneur.
Ouais.
C'est étonnant quand même qu'elle prenne le Seigneur comme image. Parce qu'en plus, on a ce même verbe connu dans Matthieu au moment où on dit que Joseph n'avait pas connu Marie et elle enfante vraiment avec le Seigneur.
Oui, sauf qu'on dit bien que c'est Adam qui a connu Ève. Hein.
C'est oui, pas... mais, et elle dit « J'ai fait un enfant avec le Seigneur ». C'est
oui.
quand même étonnant.
Alors, exactement, oui. Elle montre bien ce qui sera dans la continuité toujours de la théologie juive, que l'engendrement vient de Dieu. L'engendrement n'est jamais qu'une pure affaire de nature. C'est toujours une survenue du don divin. D'où le fait que le sexe de l'homme est marqué par la circoncision. Abraham se fait couper le sexe, ce qui est une amputation de son phallus de toute puissance, et du fait qu'il est coupé dans son organe de fierté, il peut recevoir un nom plus long. Il est amputé quelque part, rallongé ailleurs. Abraham devient Abraham après avoir été amputé, et dans la théologie rabbinique, mais surtout dans l'analyse qu'on en fait dans le monde moderne, on dit bien que cet écoulement de sang qui est fait chez le garçon est une espèce de ressemblance de l'écoulement des règles, puisque le lieu du sang et le lieu de la vie, c'est la marque de Dieu. Donc le garçon qui n'a pas d'écoulement de sang, ben, normalement, on lui montre ça, puisque le sang c'est la vie, donc ça montre que son organe de géniteur est habité par Dieu. Le sang c'est toujours la vie de Dieu, on y reviendra avec Noé. D'accord. Vous voyez ? Donc c'est très important ce que tu dis. Et c'est pour ça que les femmes sont impures dans le livre du Lévitique quand elles ont leurs écoulements de sang. On en a tiré des bêtises en disant que c'était misogyne et en disant elles sont sales, mais pas du tout. Impures, vous savez, je le dis tout le temps, mais impures ça veut dire liées à Dieu. Et donc elles sont divines quand elles ont du sang qui coule, et donc il faut les respecter, non pas les mettre à distance parce qu'elles sont sales, mais les respecter. Et je prends toujours le parallèle, à la fin de la messe, quand on lave le calice, on dit qu'on fait la purification, alors que le calice n'est pas sale du sang du Christ. Il faut juste le purifier pour le remettre dans le champ des objets, alors qu'il est divinisé par la présence du sang. Vous voyez ? Donc le sang est toujours une question de purification, qui ne veut pas dire quelque chose d'ignoble, mais quelque chose au contraire de très noble. Donc voilà, pour répondre à ta question, Sophie. Et donc voilà, il y a cette tension est bâtie dans ce verset 7 là. Il y a le péché qui est là, qui est à ta porte. Je déplace juste le téléphone pour ceux qui écouteront l'enregistrement parce que je l'ai mis à côté de l'enceinte, mais vu que le micro est mort, voilà. Gouverne ta passion. Et donc, et alors là, le verset 8 est intéressant aussi. Caïn dit à Abel, son frère, quelque chose. Et c'est un mystère total. Le texte fait défaut. Il dit quelque chose à son frère. Et dans nos Bibles, en français, quasiment toujours, on rajoute un truc. Allons au champ. Parce que la version grecque va rajouter ça. Donc quand on a traduit la Bible en grec, la Bible qu'on appelle la Bible des 70, donc 300 ans avant le Christ, ça peut pas 200, voilà, non, en fait 160 ans avant le Christ, la légende dit que c'est 300, mais en fait c'est 160 ans. Et bien on a rajouté un truc parce qu'on dit, bah les gars, il y a un creux, bon on rajoute un truc. Non, dans le texte massorétique, dans le texte hébreu, il n'y a rien. Donc il dit à Ével son frère quelque chose, on ne sait pas. Et c'est quand ils sont au champ qu'un se lève contre Ével, son frère, et il le tue. Je trouve que ce hiatus est important, en fait, ce creux du texte qui ne dit pas le dialogue et qui dit que, justement, il n'y a pas de dialogue entre les frères. Ils sont établis dans leur nomination, ils n'ont de parole que leur nom. Ils n'ont de parole que la reconnaissance maternelle qui a fait d'eux un tout-puissant et un impuissant. Et c'est l'impuissant qui est disponible et qui se laisse faire par la reconnaissance divine comme il se laisse faire par le piège de son frère. Et il se laisse emmener pour être tué. Et le mot harag, le verbe harag, veut dire tuer au sens sec, quoi. C'est le verbe brutal, quoi. Il y a quelque chose de... Parce qu'il y a plein de verbes en hébreu pour dire tuer, et là, c'est vraiment une espèce de froide matérialité du meurtre, qui est une espèce de catastrophe au tout début de l'histoire. Et donc, l'enseignement va continuer par la malédiction, mais surtout
il est à retenir dans la question de la nomination. Pour moi, c'est ça le grand enseignement de Caïn et Abel, c'est la question des noms. Le Seigneur dit à Caïn, où est ton frère? Je ne sais pas, suis-je le gardien, Shomer? Shamar, c'est le verbe qui est employé pour Adam, qui est donné comme gardien de la création. Hein. Dieu le nomme Shomer, il doit garder la création. Et donc lui, Caïn, qui pourtant est le fils, donc il est gardien par héritage, comme son père, il se laisse complètement déborder dans sa dénégation. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère clame vers moi de la terre. C'est très solennel quand même. Hein. Maintenant, tu es Oni. Voilà, le verbe Oni qui revient. Arour. Plus que la glèbe dont la bouche a béé pour prendre les sangs de ton frère de ta main. Alors là, qu'est-ce qu'il dit là? Donc, tu es plus maudit que la terre qui était déjà maudite du temps de son père. Donc les gars, ils vont de malédiction en malédiction quand même. Adam se fait maudire parce qu'il a péché. Du coup, Dieu a maudit la terre qui va peiner à donner du fruit. Et en plus, maintenant, la terre a été abreuvée du sang de Caïn. Donc elle a toutes les raisons d'être le lieu du combat. Et donc elle est doublement adamique. Adama veut dire rouge. Donc elle est rougie du sang du fils. Tu serviras la glèbe. Donc tu ne seras pas seulement un travailleur, mais tu vas carrément la servir. Tu vas être asservi par la terre. Elle n'ajoutera pas à te donner sa force. Tu seras sur la terre, mouvant, errant. Et donc les descendants de Caïn seront les errants de la terre et les méchants, les mauvais, etc. Adam connut encore sa femme, elle enfante un fils. Parce que parfois on dit, oui mais puisque les deux frères se sont entretués, il n'en reste plus qu'un, comment ça se fait qu'il y a une autre génération? Comment ça marche quoi? Et est-ce que du coup, Caïn a couché avec sa mère et tout? Non, ils vont avoir d'autres enfants, mais ça ne réduit pas le problème. Hein. Quand même, ce qu'on appelle le monogénisme, est-ce qu'il n'y a vraiment eu qu'un seul couple au départ de l'humanité? J'en suis pas totalement sûr. Adam connut encore sa femme, elle enfante un fils, elle donne son nom Chet. Oui, le Seigneur m'a placé, donc chat-li, c'est le verbe chet, c'est pour ça qu'il s'appelle chet. À chaque fois, il y a l'étymologie du nom qui est donnée dans un jeu de mots après. Le Seigneur m'a placé, donc c'est placé. Une autre semence à la place de la fumée, à la place de Evel le léger, oui, Caïn l'a tué. Donc on a acquis et placé, qui sont les deux fils qui vont rester. Et c'est ce qui nous amène au déluge. Donc il y a eu sept catastrophes des premiers frères. Ensuite, il y a toute une narration sur la descendance des enfants d'Adam et Ève. Il y a des digressions sur la question des fils de Dieu. Donc il y a des versets un peu ésotériques, un peu mystérieux dans la Genèse qui parlent des unions entre les fils du ciel et les filles de la terre et tout, mais ça, on laisse tomber. Et on arrive à la question du déluge. Le Seigneur voit que se multiplie le mal du glébeux sur la terre, donc le mal d'Adam, hein, le mal qui était déjà fait par le Père et qui continue à se multiplier, toute formation des pensées de son cœur n'est que mal tout le jour. C'est pas très positif. Et le Seigneur regrette d'avoir fait le glébeux sur la terre. Il se peine en son cœur. Hatsav, c'est la même peine qui avait été donnée comme malédiction à Ève du fait du péché. Tu vas avoir de la peine. Donc Dieu n'est pas dans un regret en se repentant, en disant... En étant en colère, c'est il a de la peine. Il voit tout ça, ça le fait souffrir. C'est important de voir que dans la poétique biblique, il n'y a pas d'idée de pensée de violence de Dieu, mais une pensée de peine. Dieu est attendri, il est abîmé en son cœur de voir que sa créature prend le chemin du mauvais. Et donc il dit, j'effacerai le glébeux que j'ai créé des faces de la terre, du glébeux jusqu'à la bête. Donc ça, j'aime bien cette mention de l'unicité du vivant, du glébeux jusqu'à la bête. C'est le même type d'être. Tous ceux qui ont un souffle de vie et qui viennent de la terre vont être détruits jusqu'aux reptiles, jusqu'aux volatiles des cieux. J'ai regretté de les avoir faits. Donc, on connaît la suite. Il y avait Noé, noir, se reposer, trouve grâce aux yeux du Seigneur. Voici les enfants de Noé, c'est un homme juste, intègre en ses cycles. Noé va avec Dieu. Et il avait trois fils, Sem, Cham et Japhet en français. Hein. Donc, Shem, Cham et Yéphet. Donc le nom, on dit, alors après dans les légendes juives, on dit que Shem sera le père de la sagesse, on dit que c'est lui le père des peuples sages, lui qui a une immense sagesse, puisque après le récit, je ne reviendrai pas longuement dessus, donc je vous le dis maintenant, après le récit de l'Arche d'Alliance, de l'Arche de Noé, quand ils sortent du bateau, Noé va faire pousser la vigne, il va inventer le vin, il va s'alcooliser, il va être bourré. Et ces trois fils vont se dire « Waouh, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Et donc, il y a Shem et Japheth qui vont aller à reculons pour cacher la nudité de leur père, mais Cham va regarder la nudité de son père. Et donc, lui, il va être le fils maudit. Il va être celui qui va être le père des Cananéens et le père, dans les légendes juives, le père des Noirs. On dit que les Africains, désolé Fidesz, on dit que les Africains sont noirs de peau parce qu'ils sont maudits d'être les descendants de celui qui a vu la nudité du père. C'est ça la légende juive, c'est une légende. Et c'est pour ça qu'il y a une chanson de Corneille, le chanteur, fils de Cham. C'est un truc qui est pratiqué en Afrique, connu, et qui est donc là, pour le coup, il y a un racisme très net dans le texte biblique, qui est assez triste pour nous aujourd'hui, mais voilà, c'est comme ça que les légendes sont faites. Et donc on dit que Shem est l'aïeul de tous les peuples de sagesse dans le bassin de la Mésopotamie, et que Japheth serait le père, donc spacieux plus loin, le père des Grecs, des Occidentaux, des Indiens, etc. C'est ça qu'on dit. Et donc Cham, lui, serait le père des peuples africains et les peuples arabes. Donc c'est ça que disent les légendes juives. Mais la terre se détruit, la terre se remplit de violence, Dieu n'est pas content, etc. Et il dit, voilà, le terme de toute chair est venu, la terre est pleine de violence, me voici, je vais détruire la terre. Fais-toi une caisse. Donc ça, c'est marrant parce que le mot Tevar va être traduit par Chouraki comme le mot Aaron, qui sera le mot employé pour l'arche d'alliance. Et nous, en français, on a cette ambiguïté-là. On dit l'arche de Noé et l'arche d'alliance. C'est marrant quand même. On ne parle jamais d'un bateau en disant une arche. C'est très bizarre comme mot. Eh bien, en hébreu, Tevar, ça veut dire une caisse, une boîte. Et donc, c'est vrai que c'est bizarre aussi. Dieu ne dit pas à Noé « fabrique un bateau », il dit « fabrique une caisse et mettez-vous dans la caisse ». Alors c'est l'idée d'une espèce de boîte sans gouvernail. Parce qu'en fait, de toute façon, les Juifs ne font jamais de bateau. Il n'y a jamais d'histoire de bateau à part sur le lac de Tibériade, et ils appellent ça la mer. Donc vous voyez le peuple maritime que c'est, les Juifs, quand même. Ils ont un petit lac et ils disent que c'est la mer de Tibériade. Jamais ils ne vont sur la Méditerranée. C'est complètement interdit d'aller naviguer. Les peuples qui naviguent, c'est les Phéniciens, c'est les sauvages de Tarsis, etc. C'est les méchants. Donc du coup, jamais on va en bateau. Donc on va sur une caisse. Et donc, en fait, il y a le grec kibotos qui va être la traduction. Et c'est pour ça qu'en français, on dit arche pour les deux. C'est que dans la version grecque, on va utiliser le même mot pour arche d'alliance et arche de Noé, kibotos, qui veut dire aussi une boîte, quoi. C'est ça, hein, Nathalie, toi qui connais le grec. Donc, du coup, c'est une boîte et qui va uniformiser. Je trouve ça marrant comme truc. En bois de cyprès. Donc déjà, le cyprès, c'est pas un gros arbre. Hein. Donc, si vous voulez faire un bateau pour mettre tous les animaux de la Terre en cyprès, il vous faut une sacrée forêt, quand même. Tu feras la caisse de cellules, asphalte-la à l'intérieur et à l'extérieur avec de l'asphalte, donc du goudron. Tu la feras à longueur de l'arrière, 300 coudées, 50 coudées, machin. Ça ressemble à la description de l'Arche d'Alliance, justement, dans le livre des Nombres, quand Dieu va commander les dimensions de l'Arche pour garder l'étape de la loi. Tu feras une lucarne, machin, donc il donne tout le mode d'emploi à la IKEA pour qu'il fasse son bateau. Et moi, je vais faire venir le déluge, vous connaissez l'histoire. Et il dit, tu vas prendre voilà, le volatile, la bête et tout reptile pour son espèce. Là, j'ai mis en gras ce moment-là parce que c'est une réminiscence du texte de la création. Dieu fit les animaux selon leur espèce. Chaque chose selon son espèce. Et ça, c'est l'ordre. Dieu met les choses en ordre. Il veut que chaque chose soit à sa place. Et c'est ainsi que toute la création est pensée, chaque chose à sa place. Et le désordre vient de la volonté de prendre la place d'autrui. Vient de la volonté de supplanter ou d'écraser. Et c'est là la grande racine du péché, alors que quand on est chacun à sa place, on peut être tous dans le même bateau sans s'entre-dévorer. C'est la promesse divine, cette vision d'harmonie, de paradis, qu'est l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'est une image du paradis originel, puisqu'ils vont tous être dans le bateau sans s'entre-dévorer. C'était une grande discussion au Moyen-Âge, on disait, mais comment se fait-il qu'on ait pu mettre un tigre avec une poule sans qu'il s'entre-dévore dans l'arche? Et puis aussi, on se posait la question, comment se fait-il qu'on ait pu mettre un faucon sans qu'il s'envole? Et donc, les pères de l'Église disaient, bah oui, mais en fait, il y avait un truc spécial, il y avait une harmonie dans ce bateau qui faisait qu'ils ne se sont pas tués. Vous savez qu'il y a des fondamentalistes chrétiens, notamment dans le Kentucky, qui sont convaincus de la littéralité du texte et qui ont construit un bateau. Dans le Kentucky, il y a une arche géante où il y a des animaux empaillés de tout type, et ils disent regardez c'est bien possible et puis d'ailleurs ils sont créationnistes à mort, et ils disent d'ailleurs que les dinosaures
sont une invention postmoderne, que les dinosaures n'ont jamais existé. Et donc, quand il y a des fossiles, ils disent, mais non, c'est des statues, ça n'a jamais existé, il n'y a jamais eu ça. Donc, bah, c'est trop bien. Et donc, ils ont fait des bateaux et tout. C'est les grands copains de Trump, hein, par ailleurs. Et, c'est de, voilà. Et donc, la pluie sur la Terre, 40 jours, 40 nuits, vous connaissez mon grand truc des 40. Donc, les 40 semaines d'une grossesse, une gestation qui se fait dans ce bateau mystérieux. Il y a un très bon film sur Noé, de Darren Aronofsky, je crois. Je ne sais plus, Emmanuel, de qui il est ce film. Avec Russell Crowe. Tu ne le connais pas, le film ?
Si, si.
Avec Russell Crowe, Emma Watson, etc. Un excellent film qui raconte l'histoire de Noé avec toutes les légendes juives. Donc, parce que ça fait que quelques versets, donc il n'y a pas de quoi faire un film d'une heure et demie. Mais il rajoute tout un tas de légendes et c'est très, très bien fait. Il y a notamment une scène dans le bateau où, que j'emploie souvent avec les enfants de l'aumônerie ou du caté, où Noé, donc c'est Russell Crowe, qui est dans le bateau et qui raconte la... Ça, j'y pense, Sophie, il faudrait le montrer à l'aumônerie et tout. C'est vraiment trop bien. D'ailleurs, pareil, Hélène, pour le caté, c'est vraiment génial. On le voit dans le bateau, et il raconte la création, et dit, au commencement, Dieu fit la terre. Et on voit, en fait, on entend le texte biblique, et on voit la création telle que la science nous l'explique. Donc on voit les planètes et tout ça, et on voit les animaux qui évoluent depuis les poissons, et qui sortent de l'eau, peu à peu. Et on entend la voix qui lit le texte. C'est génial de dire qu'on n'a pas besoin d'être créationniste farouche en disant « c'est comme la Bible nous l'a dit ». On a la foi, on croit que Dieu agit, qu'il fait les choses et que la parole de Dieu nous dit les choses non pas comment elles ont été faites, mais pourquoi elles ont été faites. Et ce texte est hyper bien mis en scène et on voit arriver l'évolution jusqu'au singe et on se dit wow, « on va arriver au grand hiatus, on passe du singe à l'homme, comment ça se passe ?» Et là, la lumière blanche, on ne sait pas, et arrive l'homme et la femme. Et c'est super bien fait. Et on les voit prendre le fruit de l'arbre. Qui est, c'est magnifique. Tu as vu
tu nous
Ah, ben je te le montre. Ah, ben dans le cycle de caté avec les parents.
Ouais, c'est ça. Ça. Tout à fait. L'extrait.
Voilà, c'est vachement bien fait. Quoi. Mmh. Donc ça vaut vraiment la peine. Je vous conseille.
Ça répond à toutes les questions qu'ont les enfants.
Voilà.
Mais je ne comprends pas entre la création de la voilà. Terre et le Big Bang à l'école.
Voilà.
C'est une question que moi-même j'avais quand j'étais jeune.
Et ben voilà. Et donc là, on comprend que c'est tout à fait. Ça colle l'un avec l'autre. Vous trouvez ça sur YouTube. Hein. La scène dont je vous parle, elle est en vignette, enfin en vidéo seule. Vous tapez ouais, création Noé, vous l'avez. C'est trop bien. Et puis donc, il y a les 40 jours. Et à la 7. Et puis voilà, là on termine. Je ne vais pas mettre trop de temps là-dessus, mais si je voulais vous montrer un truc marrant, c'est que au bout de 40 jours, c'est le bateau s'arrête. Vous vous souvenez de cette histoire? Il envoie un corbeau. Et alors, on ne comprend pas très bien ce qui se passe avec ce verset 7. Au terme de 40 jours, Noé ouvre la fenêtre de la caisse qu'il avait faite. Il envoie le corbeau, il sort et retourne avant l'assèchement des eaux sur la terre. Et bien on ne sait pas ce qui s'est passé avec le corbeau. En fait, ce n'est pas clair dans le texte. Il retourne, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il revient ou est-ce qu'il disparaît? C'est un grand mystère. Et donc le corbeau, il est symbolique d'une espèce d'ambiguïté de la réponse à la demande. Parce que ensuite, bon, Noé se dit, bon, ouais, corbeau, on ne va pas trop reposer là-dessus, on va prendre la colombe. Et c'est très mystérieux aussi parce que la colombe, ça se dit Yonah, et c'est le même mot que Jonas, le prophète. Or, le prophète Jonas, il agit comme le corbeau. Puisqu'il ne répond pas à la demande divine. C'est pour ça que je vous ai mis paradoxe avec le prophète. Donc c'est, c'est la colombe qui fait une espèce de réponse inversée avec le prophète. Ça me fait marrer. Et là, vous savez, la colombe, elle vient, elle revient, tac, 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 jusqu'à ce qu'elle rapporte une branche d'olivier, puis elle ne revient plus. Elle, on sait que c'est parce qu'elle a trouvé où s'établir, et ça veut dire qu'on peut descendre du bateau, et ça veut dire que la paix arrive. Et c'est là qu'il y a... Ah oui, on arrive du coup sur le mont Ararat. Je vais juste vous montrer où c'était, parce que vous ne savez peut-être pas. Dans le texte, on nous dit « la caisse se pose sur les monts Ararat ». Eh bien, c'est là. Donc, vous voyez, on est au bout de la Turquie, de l'Anatolie, à côté de la Géorgie et de l'Arménie. En fait, les Arméniens sont très jaloux de ce lieu-là. Ils disent « c'est chez nous hein, que l'Arche de Noé est allée s'échouer, c'est hyper important, etc. » Donc, c'est le...
Elle s'est échouée par quel fleuve, pardon
mais... Ah, mais non, elle s'est pas échouée par un fleuve.
Oui, d'accord.
L'idée, c'est que l'eau... Et, en fait, c'est parce que c'est le point culminant de la Turquie, et donc, du coup, ben, elle va se poser là où il y a la terre la plus haute. Et ensuite, c'est ça que dit la légende. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont descendre et qu'on va inventer le vin, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure. Mais avant ça, Dieu va donner... il va donner une première chose qui est capitale, une révolution majeure. Désormais, tous les animaux, ils vous sont donnés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la Genèse, Adam et Ève étaient herbivores. Et c'est après seulement que Noé a sauvé tous les animaux que il a le droit de les manger, désormais. Et donc c'est pour ça qu'on a le droit de manger de la viande, selon le commandement biblique. Mais la chair, avec en son être son sang, vous ne la mangerez pas. Ça, c'est le fondement de l'interdit de manger le sang pour les juifs. Et donc, c'est absolument interdit de manger le sang, avec la résonance de ce dont on parlait tout à l'heure avec Sophie, de la question de la vie, l'âme. Le sang, c'est l'âme pour les juifs. Et donc voilà. Et puis Dieu qui lève son pacte, donc son alliance, ce qu'on appelle l'alliance noachique, l'alliance avec Noé, avec l'arc-en-ciel. Dieu met dans le ciel cet arc qui est le signe absolu de l'harmonie entre le ciel et la terre et qui est utilisé comme un reminder, un rappel de pour toujours que le ciel n'est pas une menace. Le ciel apporte la beauté de la vie. Quand on y pense, c'est génial que ce soit dans le texte biblique quand même cette histoire d'arc-en-ciel, parce que nous on sait ce que c'est qu'un arc-en-ciel, le prisme et machin, mais on l'a su quoi au XVIIe siècle. Jusqu'alors, c'était quand même un sacré mystère. Vous imaginez les anciens, quand ils voyaient un arc-en-ciel, ils devaient tous se dire « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Ben, c'est fou, comme ceux qui voient des aurores boréales et des trucs comme ça. Nous, on n'a quand même pas grand-chose à voir, surtout maintenant avec la pollution lumineuse et tout, on n'en voit pas beaucoup des arc-en-ciel. Autrefois, on devait en voir plus souvent, et ça devait être quelque chose de merveilleux, quoi. On s'est quand même désémerveillé, le désenchantement du monde, comme disait Marcel Gaucher, il y a quelque chose qui s'est perdu dans la souvenance d'une marque divine dans les phénomènes merveilleux qui se passent au quotidien, quoi. Et donc, les eaux ne seront plus pour le déluge. Plus jamais, il n'y aura la malédiction. Et donc, Dieu aurait dû faire ça. Il aurait dû détruire. Il aurait dû tout tuer. Ça aurait dû être vrai, ça. C'est ça que nous dit la foi. C'est que la logique aurait voulu que le déluge soit une chose vraie. Et maintenant, Dieu devrait détruire. Et notre péché devrait engendrer la destruction. Et l'humanité devrait être détruite. Et quand on voit tout ce qui se passe, et toute notre époque, et chaque époque. J'ai entendu une émission où on parlait il y avait une historienne qui a écrit un livre qui s'appelle, je crois, « Chaque époque est merdique ». Pour dire, les gars, en fait, arrêtez de dire que c'est... Chaque époque, ça n'allait pas. Donc, arrêtez de dire qu'hier, c'était mieux, ou que demain, ce sera mieux. C'est maintenant le mieux. Et c'est ça, l'avant. L'avant, c'est penser que la logique divine devrait tout détruire, mais puisque Dieu n'a pas détruit, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que ça suffit, ça veut dire que c'est bon, et ça veut dire que la suite sera bonne aussi. Et puis je vais terminer brièvement sur la tour de Babel, parce que c'est un texte, en fait, finalement, pas très, enfin, moins riche que ceux d'avant, puis très bref d'ailleurs. C'est surtout que, bon, moi, je soupçonne beaucoup ce texte d'être une explication de Babylone, puisque c'est une manière d'expliquer la grandeur de la cité babylonienne, puisque Babel, c'est Babylone, hein, ça, il n'y a pas de problème, mêlé, c'est une espèce d'étymologie de Babylone, puisque c'est le verbe balal qui veut dire mêlé. Et donc du coup, on dit Babylone, elle est grande, parce que c'est le fruit de l'effondrement d'une grande tour, et c'est le fruit de l'effondrement de l'hubris humain, qui voulait conquérir Dieu par force et par fierté, et Dieu a mis cette confusion dans les langages et du coup a laissé une espèce de chaos. Et Babel est le symbole du chaos humain et de l'impossibilité de s'unir et de construire. Babel, c'est l'idée de tous les empires successifs dans le monde de la Mésopotamie qui vont se détruire les uns les autres au fur et à mesure, que ce soit les Babyloniens, mais les Perses, les Grecs ensuite, puis les Romains, donc en tout cas les Juifs qui sont oppressés par les uns et les autres. Et puis il y a, les commentateurs ont beaucoup parlé de cette phrase-là, « briquetons des briques », parce que en fait, ça fait écho à la corvée des Hébreux quand ils sont réduits en esclavage par l'Égypte. Les Égyptiens leur font briqueter des briques pour construire des trucs, et donc on dit que ils se sont auto-condamnés en s'esclavagisant les uns les autres dès le départ, parce qu'ils ont voulu construire cette tour qui a nécessité une emprise de l'un sur l'autre. Peu importe, cette histoire de tour de Babel, bon, c'est un peu faible, mais c'est ce qui lance l'anti-tour de Babel, évidemment, c'est la scène de la Pentecôte, l'Esprit Saint qui ouvre les langues et qui permet à tous de se comprendre et de se connaître, et donc c'est la révélation divine, la révélation de la face du Christ, donc de la face du Père, par l'Esprit Saint qui permet l'unité. Et donc, ça nous montre que cette réconciliation est possible, et c'est ça qu'on célèbre dans le temps de l'Avent. Donc j'arrive à ma conclusion pour me tenir à peu près à une heure, pour ne pas vous épuiser plus que ça. Adventus, comme je vous le disais dans le sermon de dimanche, avenir et aventure. Ce qui est contenu dans le texte de la Genèse, et donc ce qui est contenu dans le texte biblique en général,
c'est la volonté divine absolument hors de toute logique prédictive. Dieu n'agit jamais comme nous l'attendrions. Et sa logique, c'est d'aimer malgré tout la créature pour laquelle il fait naître l'univers entier. Nous sommes, chacun d'entre nous, le fruit d'un projet, et Dieu fait advenir l'être en général pour supporter cet être particulier qu'est l'humain. Et sa volonté salvifique resplendit dans le mode par lequel il crée, donc il veut créer de la manière la plus belle possible, mais surtout par les moyens qu'il choisit pour restaurer. Et c'est ça qu'on célèbre dans l'Avent, c'est que Dieu vient jusqu'à partager notre chair. Son projet n'est pas de rester à distance d'une créature ou d'une création qui a tout gâché, mais il va venir se lier à cette histoire douloureuse. Et c'est ainsi dans la, pour la création dans son ensemble, mais aussi pour chacune de nos vies. Dieu n'agit pas selon la logique de la destruction et de la rétribution, mais dans le compagnonnage de nos vies cabossées. Et c'est ça qu'on célèbre dans le temps de l'Avent, puisqu'on sait qu'il vient faire vie commune avec nous. Et du coup, ça nous invite, dans notre vie spirituelle, je trouve, le temps du carême, c'est le temps de la conversion, où on se dit, il faut changer, il faut faire les choses bien, etc. Le temps de l'Avent, c'est plutôt le temps de la contemplation de notre médiocrité, en se disant, ce qui est fragile et petit en moi, c'est jusque-là que Dieu m'aime. Et c'est ça qu'il vient visiter. Et du coup, considérer nos failles, nos blessures, nos deuils, nos souffrances et tout ce qui fait notre fragilité comme des opportunités de contact avec Dieu, des aspérités de contact. On est comme du velcro, quoi. Donc il y a des crochets et Dieu, il vient clac, s'accrocher. Et donc, il ne faut pas se lisser. Il faut se laisser regarder tel que nous sommes parce qu'on est incapable de se changer et de se parfaire. C'est Dieu seul, dans son union avec nous, qui nous parfait. Ce n'est pas nous qui nous réformons, c'est Dieu qui vient nous compléter. Et c'est très puissant, en fait, comme pensée, parce que c'est une pensée de déculpabilisation et c'est une pensée de déresponsabilisation de la conformité à la grâce divine. C'est Dieu qui vient, c'est pas nous qui le créons à notre image. Eh bien, voilà, je vous propose de nous laisser faire par ça, pendant ce chemin de l'Avent. Comme toujours, quand je vous raconte des trucs, les trois quarts, vous oubliez, et ça tombe bien. S'il y a une chose qui peut faire écho en vous, c'est cool. Donc, c'est, vous savez, hein, je sors plein de trucs, et voilà. Et donc, retenez l'une ou l'autre chose qui pourrait peut-être vous aider dans votre vie spirituelle. Et retenez surtout...